Donc, je vais effectuer la deuxième et dernière partie de mon message consacré aux différents dons bibliques. Donc, la semaine dernière, j'avais déjà fait une grande introduction, mais qui me paraissait extrêmement importante, pour rappeler aussi que, en tant que Église aspirant à ce modèle de l'Église apostolique, on aspire, on veut que chaque membre puisse rentrer dans sa destinée. C'est aussi simple que cela, l'Église apostolique. Tu peux montrer la diapo suivante. Parce qu'on est tous parvenus au sacerdoce royal, tous, aussi bien vous et moi. Et ouais, tu peux. Et donc là, on s'était aussi intéressé à la manière de gérer le don que Dieu nous a confié. Et l'importance aussi du caractère et des fruits de l'esprit qui entourent le don que Dieu nous a donné. Tu peux continuer ? Donc, don, par définition, c'est un cadeau. Donc, c'est juste un petit rappel en quelques secondes. Un cadeau que Dieu nous a donné. Donc, il ne faut surtout pas s'en enorgueillir. Et ça, c'est un problème, bien sûr, du cœur humain. L'orgueil. Tu peux passer. Et là, on avait aussi vu quelques critères importants qui permettaient de voir si une personne exerce son don de manière saine. Oui. Voilà. Mais maintenant, il s'agit de la question quel don. Donc là, je vais faire un rapide survol quand même. Il y a une vingtaine de dons qui sont répertoriés dans la parole. Et après, on conclura ce double message par un temps de prière en petit groupe par rapport à cette thématique. Alors, juste pour résumer en un mot, en une phrase, ce que j'ai dit la dernière fois, je voudrais juste citer un certain monsieur Millon qui dit « La qualité d'un homme n'apparaît pas dans le don reçu, mais dans l'usage qu'il en fait pour la gloire de Dieu. » Je répète, la qualité d'un homme n'apparaît pas dans le don reçu, mais dans l'usage qu'il en fait pour la gloire de Dieu. Et autre remarque aussi, tous ces dons sont destinés à être une bénédiction pour l'Église, mais aussi pour la société, pour n'importe quel endroit dans lequel les chrétiens et chrétiennes vont évoluer, notamment aussi dans leur milieu professionnel. Donc je donnerai quelques exemples un peu plus concrets ultérieurement. Donc je vous ai dit aussi que je m'étais basé sur le livre d'Alfred Kuhn, excellent livre qui s'appelle « Don pour le service », sorti en 2008. Et donc Kuhn a classifié, il a classé tous ses dons en plusieurs catégories. Après c'est subjectif, mais ça le mérite ensuite d'être clair. Et il a tout d'abord distingué ce qu'on appelle les dons de proclamation. Et là, il y insère déjà les cinq ministères, donc l'apostolat, le prophétique, l'évangélisation, l'enseignement, ainsi de suite. Et là, il y a une phrase qui a fait tilt quand j'ai lu son ouvrage, par rapport à justement notre aspiration à ce modèle d'église apostolique. Il a écrit la chose suivante, donc en 2008, par rapport au ministère apostolique d'apôtres. Il dit, il écrit, « L'absence d'un réel ministère apostolique est peut-être l'une des carences les plus marquées et les plus regrettables du christianisme évangélique actuel. » Je trouvais ça intéressant. Et donc, dans ces dons de proclamation, il inclut non seulement les cinq ministères, mais aussi deux dons qui sont clairement répertoriés dans la parole. Il y a donc, tous ces dons, vous les trouvez dans trois listes, entre guillemets, des Écritures. Donc vous pourrez relire ça tranquillement chez vous. Je ne vais pas lire ces trois listes. Donc il y a Romains 12, versets 6 et 8. Il y a 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 4 et 11. Ben, c'est toujours 12. Et 1 Corinthiens 12, 28. Donc Romains 12 et 1 Corinthiens 12. Et donc voilà, je vais faire juste un bref survol de ces différents dons. Et je voudrais commencer par celui qui a déjà été présenté à maintes reprises, donc je ne vais pas m'éterniser dessus, c'est la parole de connaissance. Donc c'est une révélation faite à une personne au sujet de quelque chose qu'elle ne pouvait pas savoir. Donc c'est une révélation surnaturelle. Dans 1 Corinthiens 14, il est question des secrets du cœur d'une personne qui sont dévoilés, qui sont révélés. Et les fruits sont excellents parce qu'il est dit qu'une personne dont les secrets du cœur sont dévoilés, tombera sur sa face, adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc c'est vraiment un don qui est précieux et on ne s'en lasse pas. Donc le 11 novembre 2025, une équipe de Denis Chikora, donc ministre prophétique des Cévennes, Jeunesse en Mission Cévennes, était venu. Il y avait eu un temps d'intercession au Grand Ballon, et après on a eu un temps de repas avec eux. Et là, il y a eu un temps de prière. Et là, parce que c'est quelque chose qu'ils exercent beaucoup, peut-être que Benjamin a pu y goûter, hein, parce qu'il y était récemment. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est quand ce jeune Allemand est venu me voir, et il a commencé à prophétiser sur moi, et il a révélé des désirs de mon cœur. Donc, dans les secrets des cœurs, il y a aussi les désirs des cœurs. Et pour moi, c'était un encouragement dont j'avais tellement besoin, parce que c'était c'est un désir. Vous avez parfois des désirs de votre cœur qui transpirent, vous voyez ? Ça transpire. Mais quand il y a quelqu'un qui vient, qui ne vous connaît pas, et qui confirme ce désir, et c'était, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'était détaillé, c'était pas quelque chose de très vague, tu vas voyager un jour, c'était très 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 précis. Et donc ça, c'est quand même encourageant. Et je crois que la parole de connaissance, ça demande beaucoup de foi parce qu'il y a une prise de risque. Parce que donner une parole prophétique sur l'avenir, je dirais que c'est pas trop trop risqué, quoi. Parce que la personne ne peut pas vérifier sur le coup. Elle ne peut pas. Après, la parole pourra s'accomplir dans 10 ans, 15 ans. Mais la parole de connaissance, c'est quelque part, si elle est précise, c'est oui ou non, quoi. C'est tu trompes ou non, ben, c'est dans le mille. Mais il y a aussi des petites nuances. Et c'est ce que Kuhn relève. Il dit que, ben là il se base sur un Thessalonicien qui dit qu'on ne doit pas mépriser les prophéties. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, oh ben de toute façon, ben là la personne dans ce qu'elle m'a dit, elle s'est trompée, donc moi j'y crois pas, c'est de l'imaginaire, ainsi de suite. Non. Mais d'un autre côté aussi, examinez toute chose, retenez ce qui est bon. Et lui il en conclut que parfois, lorsqu'on donne des paroles de connaissance, il dit c'est comme l'or. Il peut y avoir un quart d'or et du sable. Mais il dit un quart d'or, c'est mieux que rien. Et moi, quelque part, dans ces paroles que ce frère m'a données, il y avait certainement aussi du sable, des choses qui m'ont moins parlé. Mais il y avait ce quart d'or qui m'a vraiment encouragé et qui m'a fait beaucoup de bien. Donc, pour vous dire, encourageons-nous à le faire, à le pratiquer, quand on a vraiment une forte conviction du Saint-Esprit, tout en restant aussi dans l'humilité. On peut se tromper, mais c'est pas grave, il vaut mieux prendre le risque, plus de dire non, je ressens quelque chose, mais bon, j'ai peur de me tromper, j'ai peur d'être jugé, non. Il faut juste le faire avec humilité. Ensuite, là, parmi les dons de proclamation, Kuhn parle aussi de la parole de sagesse. Qu'est-ce qu'elle est importante aussi, cette parole de sagesse? La parole de sagesse, c'est, si vous voulez, c'est une application concrète de la parole de Dieu dans une situation. Et parfois, on est dans des situations complexes. Ça, je pense que vous connaissez ça. Hein, la vie n'est parfois pas facile, c'est complexe. Parfois, il y a un sac de nœuds, on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas quoi décider. Et parfois, vous avez une personne qui vient et bam, qui vous donne une parole qui défait ce sac de nœuds et qui, quelque part, donne une percée. Et je me souviens là d'une réunion qu'on a eue récemment aussi avec David, et on avait un sujet à traiter, tu t'en souviens peut-être, et on tournait un peu en rond, jusqu'à ce que Vito dise quelque chose, et ah oui, oui. Et David, je me souviens toi-même, tu as dit, waouh, Vito, je veux dire, tu as ressenti quoi, quelque part, qu'il avait, ben voilà, qu'il avait trouvé la clé. Pour moi, c'était une parole de sagesse. Et Kuhn donne une autre définition à la parole de sagesse que je trouve très intéressante. Il cite Bittlinger qui dit « Une parole de sagesse, c'est une parole dite à propos, donc au bon moment, dans une situation difficile ou dangereuse, qui résout la difficulté, oui, ou qui réduit l'adversaire au silence. » Ça, c'est intéressant aussi. Vous voyez la parole de sagesse aussi dans le combat spirituel. Et comme ça a été dit avant, par Werner, il y a ce qu'on appelle les dons... ce que Kuhn appelle les dons de service, qu'on pourrait aussi résumer en un mot la diaconie. La diaconie. Et la diaconie, c'est très intéressant parce que ce mot, diakonos, diakoneo, diakonia, toutes ces variantes, on les trouve une trentaine de fois dans le Nouveau Testament. Et ça veut dire à chaque fois, ça veut dire service. Service, serviteur, bien sûr, selon le mot employé. Service, serviteur. Donc on voit à quel point la dimension de service, elle est fondamentale. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le grec profane, on utilisait déjà ce terme pour désigner ceux qui servaient à table, ceux qui s'occupaient des soins domestiques, ceux qui servaient une cause publique aussi. Les juifs aussi utilisaient un terme aussi équivalent pour l'appliquer à ceux qui géraient les aumônes et qui s'occupaient des pauvres. Et donc, on, comme vous le savez, dans le Nouveau Testament, on l'applique aussi à ceux qui servaient aussi aux tables, mais aussi pour ceux qui collectaient des fonds. Donc, il y avait aussi l'aspect financier. Et moi, il y a une chose qui m'a frappé, et là, je pense à Alice, c'est, je pense pas que ça a été fait exprès, mais je remarque que tu es à la fois trésorière, mais tu es aussi responsable des agapes. Pour moi, tu vois, là, tu es au cœur de la diaconie au sens strict du terme. Ça n'a pas été fait exprès, je pense. Tu n'as pas dit, ah non, moi, je veux rentrer dans le cadre strict. Mais j'ai relevé ça, je trouvais ça intéressant. Par contre, au sens large du terme, diacre, ça veut dire serviteur, on l'est tous. On est tous diacres, on est tous serviteurs, on a tous un ministère. Mais je pense que, là, on va entrer dans le détail par rapport à ces dons de service. Chaque don est un don de service, mais là, on va parler de dons pratiques. On va entrer dans le détail, et là, il est clair que certains ont une couleur beaucoup plus forte dans ce don que d'autres. Et une autre remarque que je voudrais aussi faire, quand je dis que tout le monde est serviteur, on est serviteurs les uns des autres, je pense que tous ces dons, on peut être aussi amené à les exercer chacun, chacune. Même si c'est pas notre couleur dominante, mais il me paraît, bah comme je l'ai dit pour la parole de connaissance, on peut tous en avoir une. Parole de sagesse, on peut tous en avoir une. D'accord ? Et y compris pour les différents dons de service. Alors, il y a le don d'aider, qui est clairement spécifié dans la Bible. Et donc, aider, le terme grec veut dire secourir. C'est pour ça qu'on a aussi le don de secourir dans la Bible. Il y a aussi, ça veut aussi dire apporter un renfort. J'aime bien aussi ce terme. Et là, le terme grec, par contre, renvoie à un aspect aussi financier, la gestion de l'argent, c'est intéressant, et au fait de veiller à ce que les contrats soient respectés. Donc ce don d'aider, en tout cas, le relie à une dimension assez administrative, d'une part, donc gestion des locaux, respect des contrats, toute cette dimension administrative, mais il pense aussi qu'on peut y mettre d'autres tâches qui sont beaucoup plus simples, entre guillemets. Par exemple, la tâche chauffeur. Quelqu'un ne peut plus se déplacer, et bien cette personne a besoin d'un chauffeur. La sono, la technique, ça, c'est le don d'aide pour Alfred Kuhn. Un autre don aussi que Kuhn relève et que je trouve extrêmement important, tous les dons sont importants, c'est l'habileté manuelle. Et donc il cite bien sûr Bezalel, on connaît ce passage, donc une des premières personnes remplies de l'esprit, pour construire le tabernacle, pour faire quelque chose de technique. C'est quand même intéressant. Et d'ailleurs, donc il est question de ça dans Exode, et dans Exode 39, lorsque tout le tabernacle a été construit, là, il y a une phrase qu'on trouve au verset 39-42, qui dit la chose suivante. Selon tout ce qu'avait ordonné Dieu à Moïse, c'est ainsi que les enfants d'Israël firent tout l'ouvrage. Et ce qui m'a interpellé, c'est la remarque d'un rabbin qui disait que tout au long des chapitres précédents, il était question de travail. On utilisait un terme hébraïque qui parlait de travail, et là, il n'est pas question de travail, il est question d'ouvrage à faire. Et ce rabbin disait que là, le terme hébraïque utilisé veut dire faire, effectuer un service sacrificiel, un service de prêtre. Et il en concluait, et je trouvais ça intéressant, c'est que pour lui, il dit il n'y a pas de différence entre un ouvrier et un prêtre. Quelque part, c'est que tout est spirituel, quelque part. Et que tous les dons font partie du service sacré pour Dieu. Et ça, c'est un rabbin du Moyen-Âge qui a dit ça. Ensuite, il y a le don de libéralité, qui est aussi nommé. Et libéralité, ça veut dire se réjouir de la générosité qui est en nous. Et se réjouir de se donner, de donner. Il y a l'aspect financier, notamment, mais Kuhn, il va un peu plus loin, je trouve ça intéressant. Il dit, bien sûr, c'est le fait de vivre le verset « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir » dans toute sa plénitude, mais il dit que ceux qui ont ce don de libéralité, ils discernent quand ils doivent donner et à qui ils doivent donner. Et ça, je trouve ça intéressant. Donc non seulement ils aiment le faire, mais ils sont à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir, oh là là, là c'est important, là il y a vraiment, là Dieu me demande de soutenir la personne ou l'œuvre en question. Ensuite il y a le don de miséricorde qui est donné, et ce don de miséricorde, on en a parlé encore ce matin, je dirais même assez longuement, le don de miséricorde c'est quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui est un peu... qui est en difficulté, mais ça peut être d'ordre médical, une Huguette par exemple, voilà, qui est alitée, peut-être un peu isolée, qui n'est peut-être pas qui n'est pas chez elle au meilleur de sa forme. Ça peut être aussi des veuves, ça peut être des personnes qui sont sujettes à la dépression, et ces personnes qui ont le don de miséricorde, vous voyez, une fois de plus, on est tous appelés à l'exercer. La Bible nous dit qu'on doit tous être remplis de miséricorde, compassion pour les autres, d'accord ? Mais il y en a qui ont cette couleur qui est forte, et une des clés, une des caractéristiques de ce don, c'est que la personne qui va manifester la miséricorde, elle va le faire avec beaucoup de joie. D'ailleurs, c'est dit dans Romains 12:8 que celui qui pratique la miséricorde, le don de miséricorde, le fasse avec joie. Et donc ça, c'est un critère qui nous permet de voir si la personne, elle a clairement reçu ce don. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent exercer ce don de miséricorde, entre guillemets par sens du devoir chrétien, mais qui vont peut-être pas le faire de tout leur cœur. Il y a des personnes aussi qui peuvent le faire, mais de manière maladroite. Je pense notamment à des personnes qui vont voir des personnes âgées et qui parfois s'adressent de manière infantilisante. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Et là aussi, et parfois ça peut blesser les personnes en question. Donc ça peut être aussi un appel. Ensuite, il y a le don d'hospitalité. Le don de l'hospitalité, donc il y a deux versets qui en parlent clairement, qui nous disent aussi, qui nous exhortent à nous tous de l'appliquer. Exercez l'hospitalité les uns vers les autres sans murmure. Et là, à nouveau, ceux qui ont ce don, ils vont le faire sans aucun murmure. Et Kuhn dit que ces gens-là, ils ont une capacité surnaturelle d'accueillir, mais avec une chaleur, de manière chaleureuse, n'importe qui pratiquement. Et donc c'est vraiment un don qui est précieux. Et je pense que dans votre tête, en tout cas dans la mienne c'est le cas, il y a des noms qui fusent et on se dit, oh mais dans l'église, chez certains, ça transpire. Ensuite, il y a le don de présidence. Le don de présidence qui est, donc Romains 12:8 nous dit que celui qui préside, le fasse avec zèle, avec conviction. Et là aussi, il ne faut pas se limiter au culte, à la présidence du culte, la présidence de Werner, mais c'est aussi, quand la Bible parle de présidence, c'est présider des réunions, quelconques, réunions des âgés, des réunions de département, d'église, ainsi de suite. Et là, celui qui, ou celle qui préside, doit faire preuve de beaucoup de tact, parce qu'il y a toute une gestion des relations humaines, c'est-à-dire mettre en valeur les gens. Parfois, il y en a qui vont beaucoup prendre la parole, d'autres un peu moins, donc ce sera peut-être freiner certaines personnes diplomatiquement. Donner la parole à ceux et celles qui n'osent pas trop s'exprimer. Faire la synthèse des avis exprimés, ça vaut aussi bien pour le culte que pour d'autres types de réunions de conseil d'église, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment aussi un don qui est important. Et là aussi, ce don-là, les chrétiens qui ont ce don peuvent aussi en faire bénéficier, on va dire, leur entourage, leur milieu professionnel, et donc aussi à l'extérieur de l'Église. Ensuite, Paul parle du don de direction, aussi le don de gouverner, et C'est intéressant parce que ce mot dérive du verbe qui signifie gouverner un bateau. C'est celui ou celle qui gouverne le bateau. Et là, j'aime bien les caractéristiques aussi données par Kuhn. Lui, il dit que quelqu'un qui a le don de direction, c'est quelqu'un qui connaît les hommes. Dans le sens qui connaît le cœur humain, qui connaît les hommes. Et c'est quelqu'un en même temps qui connaît les lois. Ça, c'est important. Donc, un administrateur aussi pur et dur, qui connaît les hommes, qui connaît les lois. Et quelqu'un aussi qui sait anticiper. Qui sait être dans la projection. Qui voit loin et qui sait à l'avance déjà... peut-être certaines étapes qui seront à traiter. Donc il y a aussi un côté un peu prophétique dans le don de direction. Ensuite, on est à la deuxième, avant-dernière catégorie de dons, qu'une nomme les dons de... Le terme me dérange un peu, mais les dons de pouvoirs spéciaux. Alors, franchement, j'ai pas d'autre alternative. Je préfère puissance, parce que peut-être pouvoir, c'est un terme un peu qui nous plaît peut-être pas trop, parce qu'il est peut-être connoté. Mais c'est clair que c'est un don. Il y a des dons de puissance divine. Et il distingue d'abord le don de foi. Donc le don de foi, ça se rapproche un peu du don prophétique. Ce sont des personnes qui ont une forte conviction de faire un pas de foi et rien ne peut les retenir. Et il donne comme exemple célèbre Georges Müller, donc ce monsieur qui s'occupait d'orphelinat, et qui, lui, ne faisait jamais ou très rarement d'appel aux dons, ainsi de suite. Lui, il disait non, Dieu va pourvoir, on va recevoir. Et donc, vous connaissez tous ces fameux exemples de personnes qui venaient leur livrer, ce boulanger qui à 2h du matin se dit, j'ai eu la conviction de ramener du pain à votre orphelinat, ce marchand de lait qui a dit, j'ai fait un accident à quelques mètres, et du coup, le lait, il est là, qu'est-ce que j'en fais, je vous le donne. Donc, apparemment, son journal, j'ai pas vérifié, le journal de Müller rapporte plus de 50 000 exaucements précis. Ça me paraît même énorme, c'est une faute de frappe, je ne sais pas. Voilà, je vous laisse, je ne vais pas compter, mais j'ai pas lu son journal. Ensuite, il y a un autre don de puissance très intéressant et intriguant en même temps. Les dons des guérisons. Et je ne me suis pas trompé en le disant, parce que Paul, il le cite à deux reprises et il y a un double pluriel. Il parle des charismes ou des dons, des guérisons. Donc, on peut en déduire, mais ça reste un peu, en tout cas mystérieux, pour moi, on peut en déduire qu'il n'y a pas qu'un seul don de guérison, il y en a plusieurs. Donc là, il y en a qui disent, oui, parce qu'on est corps, âme et esprit. Donc du coup, il y a un don de guérison peut-être pour l'esprit, un autre pour l'âme, un autre pour le corps. Il y en a qui disent, oui, mais c'est parce qu'il y a différentes manières d'apporter la guérison, imposition des mains, onction d'huile, ainsi de suite. Donc voilà. Mais c'est quand même intéressant. Et du coup, ça veut dire aussi que une personne qui dit j'ai le don de guérison peut dire oui, tu as un don de guérison parmi d'autres. Voilà. Donc pour moi, j'avoue que ça, c'était un peu... Il y a un côté un peu mystérieux à cela, mais intéressant. Ensuite, parmi ces dons de puissance, il y a le don de miracle. Le don de miracle qui, lui, va concerner... Surtout l'action de Dieu, dans l'action surnaturelle de Dieu dans la nature, il va carrément agir concrètement et changer des choses. Bon, c'est proche du don de guérison, bien sûr, parce que le miracle, c'est aussi l'intervention de Dieu qui intervient dans sa création. Et là, ça concerne plutôt les éléments, on va dire, de la création. Un exemple concret, c'est le réveil. Indonésien dans les années 60, vous en avez entendu parler. Et moi, ce qui me frappe, c'est que vous avez même des personnes, pas forcément charismatiques, qui parlent de ce réveil indonésien. Vous avez notamment René Pache, qui était un ancien directeur de l'Institut biblique de Vevey, qui lui rapporte ce qui s'est passé. Il cite lui-même Kurt Koch, je ne sais pas si vous connaissez Kurt Koch, un théologien, qui lui-même raconte qu'il a vu des choses extraordinaires. Et moi, j'ai lu des livres de Kurt Koch, c'est quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre. Et il a dit qu'il voulait, vous connaissez peut-être cet épisode du réveil indonésien, c'est qu'il voulait célébrer la Sainte Cène, mais qu'il n'avait pas de vin. Et donc, il y avait de l'eau, et ils ont demandé au Seigneur de transformer l'eau en vin. Et Kurt Koch, il a dit qu'à trois reprises, il a été témoin de ce, de ce, miracle, quoi, quelque part, pour honorer la foi de ces chrétiens dans le cadre de ce réveil. Ensuite, il y a le don de discernement des esprits, qui est extrêmement important. Et là, qu'une parle de discernement, de songe, de vision. Moi, j'irai un peu plus loin à titre personnel. Moi, je pense que les personnes qui ont le don de discernement des esprits, ils peuvent aussi discerner ce qu'il y a dans l'atmosphère, parfois. Quand vous allez dans certains endroits, vous sentez quelque chose, parfois positivement, parfois négativement. C'est lié à une sensibilité prophétique, quelque part. Aussi, parfois, aussi, par rapport à l'intention de personnes, on peut aussi parfois sentir des choses. Donc ça, c'est le don de discernement. Et enfin, dernière catégorie, qui va peut-être intéresser certaines personnes, là, proches de moi, qu'une parle des dons de louange. Dons de louange. Dons de louange et de prière. Et il parle des dons musicaux. Les dons musicaux. Donc là, je n'ai pas entré dans le détail, parce que j'aimerais vraiment qu'on ait ce temps de prière. Mais c'est quand même intéressant de noter que sous le règne de David, il y avait 4000 lévites qui avaient comme fonction principale de louer l'Éternel avec leur instrument. Donc c'est quand même fort. Et sous la Nouvelle Alliance, là aussi, on parle beaucoup d'hymnes, de cantiques, par lesquels on doit s'entretenir. Mais ce qui est intéressant, c'est que Kuhn, qui donc n'a pas forcément un arrière-plan charismatique, parle aussi des chants improvisés. Et il s'appuie sur Colossiens 3.16, qui dit donc « Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres, toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. » Et ce que j'aime bien aussi, c'est le terme choisi, « grâce », parce que là aussi, ça peut être un source d'orgueil. Quand on est à la louange, je pense à des personnes qui vous font des concerts, qui sont face à des milliers de personnes, disent « Oh, voilà, un autographe !» ainsi de suite. Ça peut aussi être tentant. Là, j'aime bien le fait qu'on utilise le terme « grâce ». C'est sous l'inspiration de la grâce. Voilà. C'est Dieu qui te l'accorde. Ensuite, un autre don de prière, et on a presque terminé, c'est le don du parler en langue. Le don du parler en langue, dont on a aussi déjà assez souvent parlé. Et là aussi, Kuhn donne des témoignages. Donc, il ne parle pas de lui-même, donc j'en déduis qu'il n'a peut-être pas exercé. Mais il dit qu'il a eu des différents témoignages, et voici ce qu'il a relevé. Il dit que les personnes qui parlent en langue, déjà il s'appuie sur la parole qui dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, il dit que ces personnes témoignent d'une vitalité spirituelle renouvelée. Il y a un renouvellement. Il dit aussi que certaines personnes qui louent en langue ont une plus grande facilité pour aimer, tout simplement. Aimer Dieu, aimer leur prochain. Il y a voilà, un amour qui grandit en eux. Il y a aussi un amour qui est ravivé pour la lecture de la Bible, il y a un sentiment de paix et de joie, une plus grande proximité de Dieu. Donc, Kuhn parle de résultats importants et durables. Et ce qui est intéressant à noter, vous connaissez le New York Times, donc ça c'est un peu notre, je ne sais pas comment on pourrait le comparer au Figaro, en tout cas, c'est un journal célèbre, n'est-ce pas? Enfin, je veux dire, c'est pas n'importe quoi. Et le New York Times, en 2006, a parlé du parler en langue. Vous imaginez un jour que le Figaro consacre un chapitre au parler en langue? Et surtout, comme on voit la manière dont le New York Times en parle, de manière très positive, parce que ils expliquent comment des scientifiques se sont penchés sur la question, ont fait des analyses pour voir si au niveau scientifique, les résultats correspondaient à ce que la Bible en disait, que la personne donc était édifiée, et surtout le fait que la Bible dit que lorsqu'on prie en langue, l'intelligence est stérile. Ça se passe dans l'esprit, mais notre intelligence, le raisonnement est stérile. Et donc, il cite le travail d'un universitaire qui a sélectionné 5 dames et il leur a demandé de parler en langue. Et lui, donc, elles avaient des électrodes sur la tête. Et il voulait vraiment voir ce qui se passe. Et il était assez bluffé parce que il disait que les lobes du cerveau qui correspondaient à notre faculté de penser, elles étaient toutes calmes. Mais il disait, mais ces femmes disaient, elles n'étaient absolument pas en transe, elles étaient conscientes, quoi, quelque part. Et ça, ça l'a frappé. Et le New York Times, il citait une autre étude qui montre que ceux qui parlent en langue disposeraient, je cite, d'une plus grande stabilité émotionnelle et souffriraient plus rarement de problèmes mentaux. Ça, c'est quand même intéressant. Et donc il y a un monsieur de l'université Oral Roberts qui, de son côté, a constaté dans le cadre de ses recherches sur le parler en langue, que ce parler en langue, à voir, j'ai pas lu, peut-être ça pourrait intéresser Benjamin, que le parler en langue engendrait des sécrétions et un impact positif sur notre système immunitaire. J'ai pas lu l'étude, donc, mais c'est quand même intéressant de voir que la science confirme une nouvelle fois la parole de Dieu. Et enfin, le don d'interprétation des langues. Et là aussi, c'est quand même quelque chose qu'on ne vit pas beaucoup et qui pourrait être développé. Donc voilà, on va voir comment ça va évoluer. Peut-être qu'il y en a que parmi nous qui l'ont et que ce don est peut-être encore en sommeil. Mais en tout cas, Kuhn disait que ceux qui interprètent le parler en langue, ce ne sont pas des traducteurs, ils sont des interprètes. Donc, c'est une nuance subtile pour dire que ils ne vont pas forcément faire du mot à mot, mais Dieu va leur donner la faculté de quelque part de les rendre aussi forts que des critiques qui, par exemple, décrivent des tableaux. Parce qu'il dit que parfois, vous avez des journalistes ou des critiques qui arrivent mieux à décrire le tableau que l'auteur lui-même. Qui arrivent mieux à faire passer le message que l'auteur lui-même. Et là, c'est un peu le cas avec le don d'interprétation. C'est que, c'est clair, parce qu'il y a le sceau du Seigneur. Donc il y a le message du Seigneur qui passe, qui est rendu intelligible et abordable. Et on se rapproche de Pâques, Pessah, et bientôt Shavuot, Pentecôte. Et donc vous savez tous que à Pentecôte, là, Dieu a utilisé des personnes pour annoncer sa gloire dans des langues étrangères, dans des langues humaines. Et là, je voudrais juste, en conclusion de ce chapitre-là, citer Jean-Marc Taubois, qui lui, il a fait une expérience extraordinaire. Il était dans le nord de la France et il a assisté à une conférence sur l'inspiration des Écritures. Et là, à un moment donné, il y a une personne qui s'approchait et qui a parlé en langue. Et sauf que Jean-Marc Taubois a remarqué que cette personne, elle parlait hébreu. Et là, il y a une autre personne qui se lève et qui dit « Moi, j'ai l'interprétation ». Et Thomas, il dit « Oh là là là, comment ?» Alors là, je suis étonné de voir. Et il était bluffé de voir à quel point l'interprétation, elle était brillante. C'était une traduction, mais littéraire. Et ensuite, il est allé voir la personne disait « Moi, qui interprétait, moi, l'hébreu, je ne connais pas ». Mais alors, il dit... Il dit, donc voyez, si déjà on vit ce genre de choses, mais pourquoi alors ne pas croire à l'inspiration pleine des Écritures si ça peut se vivre comme ça? Tu peux projeter la diapo 6, et ça va nous concerner, vous concerner, maintenant on fait quoi avec tout ça? Donc c'était un bref survol, on pourrait développer bien sûr, mais là l'idée maintenant c'est de voir, qu'est-ce que je fais? Peut-être que vous êtes dans un cas de figure, dites moi je connais mes dons, vous êtes dans un cas de figure, dites je les connais peut-être pas tous, parce que Dieu nous a donné plusieurs, on peut avoir une couleur dominante, ou bien vous dites moi je sais pas. Et donc là, il peut y avoir une feuille de route très simple, c'est déjà... connaître les dons qui existent, donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Ensuite, d'être ancré dans la foi et de se dire, par la foi, je sais que Dieu m'a accordé un don. Et ça, est-ce que tout le monde y croit? Tout le monde croit? Parce que parfois, il y a des sentiments d'indignité, mais non, moi, non, non, non. Mais c'est la parole qui le dit clairement, quel que soit ton état, parce que c'est un cadeau, c'est une grâce. Ensuite, la disponibilité. Est-ce que je suis prêt à dire, Seigneur, je veux me rendre disponible pour exercer ce don au service de l'Église, mais aussi au service des autres, de ma famille, de la société. Une autre étape, ensuite, ben ça va être la prière, pour être guidé, quoi, quelque part, dans sa recherche, et c'est ce qu'on va faire dans quelques instants, en petit groupe. Et ensuite, ben, la phase active, ben, mettre en pratique. Et après, vous pouvez dire, oui, mais, comment est-ce que je peux reconnaître mon don? Et ben déjà, il y a parfois des attirances qu'on a pour certains départements d'église, pour certaines choses, qui parlent de soi, qui peuvent être évidentes. Parfois, on peut aussi douter, se dire, ouais, mais est-ce que c'est juste moi? Et donc, qu'une, en tout cas, donne une caractéristique à laquelle j'adhère pleinement, enfin, un critère parmi d'autres, mais un critère qui lui paraît fondamental, c'est celui de la joie. C'est-à-dire que lorsque tu vas exercer ton don, tu seras dans la joie. Ça ne veut pas dire que ça sera toujours facile, qu'il n'y a pas d'obstacle, mais il dit, mais un des critères, c'est que ta joie, elle va demeurer et tu vas persévérer dans ce don, malgré les obstacles et les défis et les freins. Ça, pour lui, c'est un critère. Et il dit aussi que Dieu est bon, Dieu est un bon Père, Dieu va vraiment nous donner des choses qui vont nous réjouir. Alors, lui dit aussi qu'il donne, il parle de personnes qui disent, oui, Dieu m'a envoyé au seul endroit où je ne voulais pas aller, et voilà, mais je vais être dans sa volonté. Qu'une n'adhère pas trop à cela. Moi non plus, à titre personnel, après ça c'est personnel. Ça ne veut pas dire que tout va être simple, mais la joie, et un autre critère aussi, ça va être la manière dont les autres vont réceptionner l'exercice de ton don. Là aussi, ça va être une confirmation, ou non, de la manière dont tu exerces ton don. Et donc, un des rôles des cinq ministères, notamment de l'Église apostolique, hein, je vous rappelle, les cinq ministères, ils sont là pour l'édification des saints, en vue de l'exercice du ministère. Donc, les cinq ministères, ils sont là pour faire en sorte que chacun rentre dans ses dons. Donc ça sera aussi aux cinq ministères de discerner, dans l'Assemblée, de discerner les dons. Voilà. Est-ce que tu pourrais projeter la prochaine? Ah ben voilà, non, juste celle-là. Moi j'aimais bien cette image aussi du puzzle, parce que on est chacun un morceau du puzzle. Et il y a ce verset qui dit justement dans Éphésiens 4, qui dit que le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement, écoutez bien, selon la force qui convient à chacune de ses parties. C'est-à-dire que chaque partie du corps que tu représentes renforce le corps. Et je pense qu'il y a une chose qui peut être très frustrante, c'est quand on fait un puzzle, par exemple, et qu'il manque une pièce, vous voyez ? Ou deux pièces, vous savez, c'est, on n'a pas envie de l'afficher quelque part. Ah oui, on dit là, non, ça ne te plaît pas. Donc, pour dire à quel point chaque don est précieux et que c'est vraiment une responsabilité aussi pour le corps qui nous dépasse de trouver ce don, de l'identifier. Et enfin, tu peux projeter la dernière diapo avant ce temps de prière qu'on va avoir. Esther. Donc, j'avais commencé la première partie de mon message en citant Mardoché qui disait, mais et si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, hein, que tu as été appelé, ainsi de suite. Et elle répond, à un moment donné, j'entrerai. C'est-à-dire, j'entrerai dans mon appel, dans ma destinée. Mais, qu'est-ce qu'elle dit juste avant? Elle dit au verset 16, en chapitre 4 du livre d'Esther, Esther dit, va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi. La prière. D'abord, et elle dit, et moi aussi je vais le faire, je vais prier, puis j'entrerai chez le roi. Donc on a besoin, et pas seulement maintenant bien sûr, mais on a besoin du soutien du corps pour nos destinées respectives, un soutien, on va dire, permanent pour ensuite être prêt à entrer dans notre destinée avec joie avec courage et avec persévérance. Alors, ouais, on pourrait se regrouper, faire des petits groupes, je ne sais pas, 2-3, d'accord. Et donc l'idée, après vous allez dire, ouais, mais donc pour faire quoi? Mais l'idée, ça serait vraiment de qu'on puisse prier pour que, suivant la situation des uns et des autres, que les dons soient mis en lumière, que les dons soient peut-être endormis, soient ranimés, ravivés, que les dons puissent être exprimés, puissent être exercés en temps voulu, entourés des fruits de l'esprit, et qu'on puisse entrer progressivement, mais sûrement, dans ce modèle d'église apostolique où chacun exerce les œuvres préparées d'avance par le Seigneur, dans l'église et à l'extérieur. Voilà. Ça, pour moi, c'est l'église apostolique. Là, on est au cœur du but de l'église apostolique. Ça vous va ?